Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Portrait d'adhérents Biovallée.
Dans le cadre de cette série « Il est une vallée » menée conjointement par RSF et Erdiwa, je me trouve aujourd'hui pour le portrait d'adhérent Biovallée à Saillan, chez Nicolas Ergotte, architecte. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment es-tu devenu architecte ?
Alors comment je suis devenu architecte, c'est pas forcément un rêve d'enfant dès le plus jeune âge, j'ai toujours voulu faire ça. C'est venu un peu par intuition, à un moment donné où j'étais paumé dans mes jeunes études en fait au lycée, je savais pas trop vers quoi aller quand je me suis rendu compte que tout le monde était, j'étais plus le premier de la classe que j'avais pu être avant, et tout d'un coup j'avais plus trop envie de bosser au lycée, ça m'intéressait plus. J'ai un grand-père qui m'a fait un petit peu visiter les chantiers. Lui était maîtreur vérificateur, ce qui est aujourd'hui un économiste, mais malheureusement il a disparu trop tôt pour que il puisse vraiment m'introduire dans ce métier, dans cet univers là. Donc c'est venu un petit peu par instinct, comme ça, en discutant avec des gens, avec une prof de philo qui m'a pas mal aiguillé. Mais ça remonte quand même pas mal, hein. Ça remonte à avant les années 2000, quoi. J'ai passé mon bac en 99 et j'ai commencé les études d'archi après, en me disant tentons le coup, on verra ce que ça donne. Ce qui aujourd'hui est pas du tout possible parce que malheureusement il faut faire une classe prépa, c'est devenu très compliqué, assez inaccessible. Et moi je me suis un peu révélé en faisant, c'est-à-dire à la deuxième année d'archi, je me suis dit ah c'est quand même chouette comme étude, ça me plaît bien comme univers, on va continuer. Et finalement ben c'est avec les études et en continuant et en exerçant le métier que je me suis dit bah ouais c'est vraiment le truc qui me plaît, je continue.
Et alors qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a touché au moment où tu découvrais l'architecture et que tu t'es dit ah ouais c'est bien, ça a du sens.
C'est une bonne question, ça remonte un petit peu hein, dans mes mémoires parce que j'ai quand même pas mal évolué depuis cette période-là. Je pense que il y a une dimension humaine. Le fait d'apporter quelque chose aux autres, en fait, à travers l'architecture, ce qui se voit pas forcément aujourd'hui quand on parle d'architecture ou d'architecte, on pense pas forcément à un architecte qui est généreux, et pourtant c'est reconnu comme comme on appelle ça, comme un
on va trouver le mot une action d'intérêt général.
Voilà, c'est ça, un service d'intérêt général, exactement. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette dimension-là, même si on est souvent submergé par des contraintes, des normes, du temps, des budgets. Moi, j'adore trouver cette dimension-là. Et j'adore aussi quand ce qu'on imagine après, ça marche. En fait, ça marche et les gens peuvent se l'approprier, s'approprier des lieux, les utiliser, et même dans des proportions et des manières différentes de ce qu'avait été imaginé, c'est juste génial, quoi. L'appropriation de lieux par les utilisateurs, c'est ce qu'il y a de plus magique, je trouve, moi, dans mon métier.
J'ai l'impression que l'architecte, il a une grande responsabilité pour ce qui est finalement du bonheur dans la vie quotidienne de tout un chacun, des habitants de ce territoire et plus largement encore.
Alors oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Il contribue beaucoup en même temps, cette responsabilité, elle est à la fois assez lourde parce qu'on peut se dire... si je rate mon coup, ça va être un enfer. Et on le voit aussi dans des opérations qui sont pas bien réalisées ou qui ont avec le temps pose des problèmes. On se dit ah mince, ça a été mal pensé. Et il a suffi d'une fois et des milliers d'utilisateurs, voire des millions dans certains cas. pour des gros projets, peuvent en pâtir.
Ça doit être assez lourd à porter, ça, quand on se rend compte que le projet n'est pas bon. Il n'a pas été, n'apporte pas ce qui était escompté comme bonheur à vivre.
Alors oui, ça l'est, mais en même temps, moi je crois aussi à ce que les choses sont pas figées dans le temps. On peut toujours modifier, réparer. En plus de ça, faut pas oublier, tu parles de responsabilité, mais l'architecte, il est pas tout seul. Au moment de la conception, il travaille avec une multitude d'acteurs. À commencer par celui qui commande en fait le projet, le maître d'ouvrage du coup, tel qu'on le définit, qui définit un programme et avec qui il y a un travail qui se fait de manière concomitante en fait. L'image de l'architecte qui fait son projet dans son coin et qui l'impose à son client et le client voilà on me relate de ça des fois, on me dit oui on était voir tel archi, j'espère que t'es pas comme ça. En fait moi je me bats contre ce stéréotype parce que déjà pour moi c'est dépassé, complètement dépassé. Il y a encore des archis, je pense, qui travaillent peut-être d'une manière un peu comme ça, mais moi j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore faire ça dans le monde d'aujourd'hui où on fonctionne tous les uns avec les autres en interdépendance. Et pour moi l'architecte c'est pas le chef d'orchestre, c'est plus un accompagnateur, quelqu'un qui accompagne pour aller dans une direction et faire en sorte que de beaux projets se réalisent.
Alors justement aujourd'hui tu as créé ton bureau d'architecture que tu nommes SEN Architecture et qu'on ouais. trouve à Saillant. Alors quel architecte es-tu et en quoi ta pratique de l'architecture est, j'allais dire, espérons-le bien sûr, SEN?
Alors oui, SEN c'est pas S-A-I-N-E, c'est S-E-N. Je peux donner rapidement la définition, hein, pourquoi j'ai donné ce nom-là. En fait j'ai vécu un petit peu en Chine et du coup l'inspiration pour le nom de l'agence, il vient d'un caractère chinois qui s'écrit avec trois arbres en fait, hein, quand on regarde, bon là je montre la carte de visite mais ça peut... On peut le voir autrement. Donc en fait, ça se prononce SEN et ça correspond à la forêt. Ça signifie la forêt ou la multitude. Sachant que dans les caractères chinois, il y a souvent beaucoup de significations, beaucoup de sens derrière chaque caractère. Et moi, ce que j'aime bien à travers ce caractère, c'est bon, à la fois c'est esthétique, hein, j'aimais bien, voilà, je suis assez attiré par le côté graphique, mais aussi la référence au mandarin ici, c'est parce que avec la forêt, il y a plusieurs notions pour moi qui me semblent importantes. C'est que la forêt symbolise beaucoup de choses, à la fois la notion de résilience qui est quelque chose qui voilà, on en parle beaucoup, tout le monde en parle aujourd'hui, et puis voilà, moi j'ai été sensibilisé à ça ces dernières années. Peut-être la complexité du monde contemporain. Parce que voilà, aujourd'hui on évolue dans un monde qui est quand même très complexe et c'est pas toujours évident d'avoir des repères. Et donc la forêt pour moi, c'est pas juste des arbres, il y a beaucoup de choses, il y a un milieu vivant avec énormément d'éléments différents. Et il y a aussi l'idée qu'en collaborant on va plus loin. Et les récentes études sur les forêts, on montre le fait que les arbres collaborent les uns avec les autres par les champignons, ce genre de choses. En fait, ça révèle pas mal cette idée que à plusieurs on va plus loin, alors que tout seul on va peut-être plus vite, mais on fait pas forcément des choses aussi abouties. Et enfin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la forêt c'est un très bel exemple d'un système de recyclage en fait, d'une manière de s'auto-recycler, de réutiliser les matériaux qui sont là, en fait, les éléments qui sont là, pour en faire autre chose. Et ça, en tout ça, je trouve que c'est vraiment une belle inspiration.
Ce que je te propose d'écouter pour poursuivre notre échange, c'est un petit extrait du débat que RSF a mené autour de ce que c'est qu'un sol vivant et de l'importance évidemment de le préserver. Dans cet extrait, nous allons entendre Blandine de Montmorillon de l'association Compost et Territoire qui parle du compostage domestique comme d'une action favorisant le lien social. on l'écoute.
Et donc on a un cercle vertueux, puisque dans la nature, alors, rien ne se perd, rien ne se crée, il y a un cycle permanent. Et donc on effectue ce cycle en recréant du compost qui sera épandu dans les jardins, on va se servir pour les plantes vont donner des épluchures, les épluchures vont être dans le composteur, etc. etc. Donc on a vraiment cet intérêt vraiment écologique de la formation du compost. On a l'intérêt financier, citoyen de réduire nos déchets. Et puis on a intérêt social aussi parce que c'est un nouveau rendez-vous en fait, les composteurs. Les gens se rencontrent autour du composteur, ils font connaissance. Il y en a même qu'on a fait rencontrer, qui sont restés ensemble depuis qu'ils se connaissent au composteur. Et voilà, c'est un endroit très intéressant socialement.
Voilà, c'était Blandine de Montmorillon de l'association Compost et Territoires à l'occasion d'une interview menée par Radio Saint-Ferréol. Alors, Nicolas Ergot, que fait l'architecte que vous êtes des questions de compostage, mais aussi de recyclage ?
Je pense qu'il y a un champ à explorer, mais énorme. Recycler, ça veut dire comment est-ce qu'on peut réutiliser soit des matériaux de rebut qui viennent d'autres constructions pour les réutiliser dans un bâtiment concret. Et là, ça pose des problèmes de normalisation, de comment on arrive à les caractériser, parce que souvent, il y a des fiches techniques qui vont derrière des produits, etc. Donc là, il y a toute une logique normative qui fait que c'est pas évident de se dire il suffit de prendre tel matériau et ça me fait mon isolant et c'est bon. Non, c'est pas si simple que ça, parce que souvent, dans les projets, on doit attester d'une certaine résistance thermique, et puis il y a plein de caractéristiques derrière qui font que on est obligé d'aller chercher le matériau industriel de chez machin. Voilà. Alors même si aujourd'hui ça peut être une variante écologique, des panneaux en laine de bois, il y a plein de choses qui sont super, même du chanvre, voilà. Pour aller plus loin, comment on peut utiliser des matériaux qui sont recyclés, qui viennent d'un autre projet en fin de vie. Et ça, il y a des choses qui sont en cours en ce moment, mais on n'est qu'au tout début de ça. Et moi, quand j'en parle à mes clients, ils ne comprennent pas trop au début. Et je sens que c'est toute une démarche, parce qu'il faut convaincre les clients, il faut convaincre les entreprises. Et c'est déjà tellement dur de maintenir le cap de l'éco-construction, qu'en franchir le deuxième pas pour se dire on va faire un peu de recyclage, c'est vraiment compliqué. C'est plus facile à faire pour le terrain, parce que le terrain, il peut y avoir des choses sur place, des cailloux, des graviers, des poutres, des machins, qu'on peut réutiliser à d'autres endroits. Ça, on va le faire plus facilement, de les réutiliser à l'extérieur du bâtiment. Par contre, dès que c'est dans le bâtiment, comme y a tout cet aspect réglementaire dont je parlais, il y a du chemin à faire, parce que ça va derrière avec un combat de faire valoir les rebuts auprès d'instances de contrôle de la qualité des produits qui sont utilisés, tout ça. Et donc ça, c'est plus compliqué. Après, on peut le faire sur tout un pan, dès que c'est un peu artisanal, ou alors il y a quand même énormément de matériothèque aujourd'hui qui se développe, mais ça reste encore à une petite échelle. Les filières sont pas énormes, on va pas chercher des centaines de mètres carrés de panneaux d'isolants recyclés comme ça. Alors moi, je n'ai pas vu ça encore, j'ai eu quelques contacts, il faut que j'aille creuser, mais j'aimerais bien proposer ça, dire à mes clients si vous voulez, il y a telle option, ça coûte pas plus cher, et c'est du matériau qui vient d'un autre bâtiment. Donc ça, c'est pas c'est à explorer, et moi j'aimerais bien le mettre plus en plus en avant dans les projets. Donc maintenant, pour revenir au compostage, parce que cette notion-là, je la trouve intéressante en architecture. Ça, c'est une question de mentalité, souvent de culture. C'est-à-dire que très souvent, la relation qu'on a avec un maître d'ouvrage, c'est lui, il veut un bâtiment qui soit le plus durable possible et avec le moins d'entretien. En général, c'est ça, moins d'entretien, parce que ça fait des économies. Et le plus durable possible, il faudrait qu'il soit éternel, le bâtiment. Sauf qu'en fait, on oublie qu'on est juste là de passage, et même nos bâtiments, ils vont durer un certain temps. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui... Enfin, on a quelques monuments qui datent de plusieurs milliers d'années, mais il faut voir comment on les restaure derrière. Les bâtiments ne sont pas éternels. Et cette notion-là, de l'éternel, elle existe plus dans notre monde occidental, où on a l'impression de construire pour l'éternité, que dans d'autres cultures où on va accepter qu'on va construire quelque chose qui va se dégrader naturellement et qu'on va laisser. Alors, il y a le cas peut-être chez des nomades, où ils savent que leur construction elle va être détruite et puis c'est pas très grave. Ou alors dans des endroits où il y a des climatismes, enfin des effets climatiques qui font que les maisons peuvent être détruites facilement, ça peut être les tremblements de terre, des inondations, qui font que on construit avec pas grand chose parce que de toute façon les choses vont être détruites. Mais ça crée du coup un raisonnement qui est du coup différent par rapport à la construction. Parce que là, on se dit, bah, dans ce cas-là, si mon bâtiment il va être détruit, j'ai pas envie que ça soit un truc qui reste comme ça dans l'environnement. Finalement, autant qu'il retourne à la mère nature. Et puis, c'est pas grave, quoi. Le bâtiment, il a été fait avec les matériaux qu'on a empruntés à la nature. Et puis, en fin de vie, il se composte. Voilà. Et il repart et on le rend à la nature. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme manière de penser la construction.
De l'habitat biodégradable.
Exactement.
Ouais. Mais du coup, c'est sans doute parce qu'on est tellement attaché à cette question de l'héritage et qu'on doit forcément transmettre un patrimoine à nos enfants. Et parce que tout ça, c'est encore une fois, c'est aussi de l'argent.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a cette notion de l'argent, effectivement, et de l'héritage pousse à ce qu'on transmette quelque chose qui est inaltérable. On dit investir dans la pierre, ça montre bien, quand on parle de ça, on n'imagine pas une seule seconde que la pierre dont on parle, en fait, ne plus exister dans 50 ans, dans 100 ans.
Et puis la question aussi de la propriété privée. Comment, pourquoi on est attaché à ça, à la propriété privée?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette notion-là, on peut aussi opposer plusieurs visions de la propriété privée, où dans certains pays, plutôt dans le monde occidental, la propriété privée, c'est quelque chose d'intouchable
et de sacré.
Où quand on possède quelque chose, une parcelle, eh bien, c'est la nôtre et voilà. Il y a d'autres pays où c'est des concessions. C'est-à-dire que c'est comme un loyer de 99 ans, par exemple. Un bail, comment on appelle ça déjà ?
Emphytéotique.
Oui, c'est ça, emphytéotique. Cette notion-là existe aussi en France, pour certains, mais c'est tellement,
peu commun.
Ouais, c'est tellement peu commun qu'on parle jamais de ça. Mais cette notion de bail emphytéotique qui peut exister ailleurs permet d'aborder peut-être la construction d'une manière différente. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi. Et du coup, la propriété privée, elle a beaucoup moins de sens dans ce cadre-là.
Alors, pour continuer, si vous le voulez bien, je vais vous faire entendre un petit extrait du documentaire que Nénu de Erdiwa a réalisé, où il est question, là encore, des jardins collectifs. Et nous allons entendre Yves, membre du conseil municipal, qui, dans le village de la Répara au Ripple, explique pourquoi il souhaite, ensemble, sur la commune, construire un logement collectif.
Moi, ce qui me choque le plus en ce moment, c'est et pourtant la loi au niveau national, on est en train de faire marche arrière, mais quand on voit tous ces lotissements partout, je trouve ça une aberration. Enfin, chacun son petit lopin. Pourquoi pas faire plus de collectifs? D'ailleurs, sur la commune, là, tout à l'heure, je vous parlais on envisage de faire quelques logements. Mais pour moi, il est inenvisageable de faire des maisons. On va faire un immeuble, un petit immeuble, mais quelque chose de partagé, toujours dans le lien et puis d'utiliser l'espace. Si on a un hectare et qu'on met 5 maisons sur un hectare, chacun a 2000 mètres carrés. Si on met un immeuble, tout le monde a un hectare. L'intérêt, il est là. Il faut arrêter de manger du foncier.
Voilà, Yves de la Répara, horrible. Alors, Nicolas Ergot, architecte, comment vous pouvez réagir à ce petit passage-là qui évidemment, évoque la question de la question de la bétonisation des sols, quoi.
Oui, bah ça c'est effectivement, ça résonne beaucoup en moi. Hein. Je connais très bien le sujet. Le mitage du sol, on dit du sol français, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est partout pareil. Et comme je disais, j'ai vécu en Chine, c'est dans des proportions monumentales. On crée des villes pour des logiques immobilières et spéculatives qui deviennent des villes fantômes parce qu'en fait, personne n'investit. Et c'est en fait, oui, c'est effectivement dramatique. C'est là où je disais tout à l'heure. La question est-ce qu'il faut encore construire aujourd'hui, est-ce qu'il faut construire neuf surtout, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux se concentrer sur le patrimoine existant et le rénover. Et je me suis posé ces questions-là, je me suis même demandé si c'était encore une très bonne idée d'être architecte si j'ai considération pour l'environnement, parce que je participe en fait à cette bétonisation. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? C'est pas facile parce qu'il y a de telles logiques et de tels lobbies pour qu'on aille dans ce sens de la construction, même s'il y a des lois, effectivement, là tout à l'heure dans le reportage, je pense que l'adjoint parlait de la loi Allure, qui est une loi qui fait bouger les communes aujourd'hui au moment où ils font la révision de leur PLU. C'était le cas notamment à Saillant, en fait. Ça fait beaucoup de débats, puisque tout d'un coup, on a une certaine quantité de surface à construire, et tout d'un coup, on va les réduire. Donc on va dire aux gens qui avaient des surfaces constructibles, qui pouvaient imaginer que en fin de vie, par exemple, ils allaient pouvoir revendre un bout de parcelle à un promoteur et du coup pouvoir se payer leur retraite avec. Bah, ça fait beaucoup de mal, effectivement, quand on imaginait ça, parce que c'est un schéma qui existe depuis des dizaines d'années, que tout d'un coup, bah non, maintenant, votre parcelle devient zone naturelle ou agricole et vous ne pouvez rien en faire à part des champs de patates.
Et pour autant, il faudra bien qu'on arrive à partager, bon, de manière tant que possible un peu équitable, à la fois les ressources, les lieux d'habitation, les espaces naturels, pour que tout un chacun puisse en profiter. Et comment on fait ?
Oui, tout à fait. Hein. Mais là, je trouve qu'on là, on va se heurter à la question de comment on continue à croître dans un monde fini, puisque en fait, là, on essaie de pallier par des subterfuges au fait que la démographie augmente. Qu'on est de plus en plus nombreux. En plus, en ce moment, il y a un phénomène où les gens ont envie de venir vivre à la campagne plus qu'avant. Donc, une exode qui se fait à l'envers d'il y a quelques décennies. Oui, c'est mieux de densifier, de se mettre à plusieurs sur des parcelles, mais ce n'est pas toute la solution. Puisqu'à un moment donné, quand on aura... Fait tous ces logements collectifs. Alors, c'est déjà un pas de le faire. Mais si on arrive à avoir de l'habitat de qualité, densifié sur des parcelles, bah, à un moment donné, il n'y aura quand même plus de parcelles pour le faire. Donc, comment on fait ? Et je trouve qu'on n'interroge pas assez les mécanismes pour arriver à rénover également. C'est-à-dire qu'il y en a qui existent, hein, on pousse pas mal sur la rénovation énergétique, sur voilà, beaucoup de choses, mais très souvent, quand on fait le calcul, c'est notamment le cas des individuels quand ils se disent est-ce qu'il vaut mieux que j'achète quelque chose à rénover ou bien est-ce que je fais faire construire neuf, ben, en fait le choix il est vite fait puisque c'est toujours plus intéressant aujourd'hui même avec toutes les contraintes de se faire construire son pavillon en périphérie de ville plutôt que de retaper une ruine parce qu'il y a toujours des logiques immobilières qui font que on s'y retrouve pas à acheter un bien puis le rénover. Ou du moins, c'est assez rare, en tout cas.
Oui, et on observe aussi dans un certain nombre de villages et de petites villes comme celle comme Saillant que un certain nombre d'habitats restent inoccupés toute une partie de l'année.
Oui, alors ça amplifie le phénomène, effectivement, puisqu'on peut se permettre en fait d'avoir des habitats qu'on occupe qu'une petite partie de l'année et que le reste du temps il reste vide, ça crée encore moins de lieux à habiter et ça crée encore plus de pression immobilière du coup et c'est encore plus compliqué du coup d'accéder à la propriété. Mais je dirais que ce phénomène-là qui se trouve à Saillant et dans d'autres petits villages, il se trouve partout en fait où il y a du tourisme et de la pression immobilière. En plein Paris, il y a des arrondissements entiers qui sont presque inoccupés parce que en fait ils sont achetés par de riches étrangers qui viennent là peut-être 3 semaines par an quoi. Donc en fait c'est pas forcément spécifique aux petits villages touristiques. Je dirais que c'est un phénomène global quoi.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que bon, il y a eu une période là où vous avez peut-être douté du fait d'être architecte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de rester dans le désir de construire, de quoi habiter vous le disiez tout à l'heure, d'une manière heureuse.
Alors, ça c'est une vraie question pour moi effectivement. Je suis passé par une phase de crise, notamment quand j'ai vécu en Chine. Alors c'est pas parce que c'était la Chine, c'est vrai qu'on est, c'est un endroit qui est tellement dynamique, ça va tellement dans tous les sens que c'est un révélateur. Donc peut-être que ça a accéléré les choses, mais ce passage, cette transition dans laquelle je suis aujourd'hui, hein, je suis un architecte en transition en fait, et peut-être de la transition, je l'espère. J'essaye de mettre en place des outils pour que ça soit le cas. Eh bien, en fait, ça n'a pas été très facile de trouver des alternatives avec les connaissances que j'avais, parce que j'étais pas du tout exposé à ça en fait. Mon parcours, j'ai travaillé une dizaine d'années à Paris en agence. 3 ans à Shanghai, et en fait j'ai travaillé sur des beaux projets, j'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, c'était quand même j'ai eu cette chance de d'être sur des projets de qualité, mais je perdais plus petit à petit la motivation d'être sur des projets où finalement c'est quoi la finalité, est-ce que c'est juste le design? Les habitants, les futurs usagers vont être peut-être contents, mais il manquait quelque chose. Et voir qu'en fait, c'était béton à tout va, aluminium, quelque chose qui ne va pas sur un chantier, hein, on balance à la poubelle. Et je rentre chez moi et je me fais mon petit compost à la maison. Il y avait un problème quand même. Donc, la question, est-ce que il vaut mieux être encore architecte ou faire autre chose? Oui, je suis passé par là. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un univers qui existait avec une approche complètement différente dans laquelle je me suis jeté. Donc c'est l'approche soit des autoconstructeurs ou des architectes qui font de l'éco-construction. Et qui recherche et qui réinvente tout ce savoir-faire en fait qui existe pas mal ici dans la Biovallée. C'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. C'est l'usage de matériaux naturels, la terre, le bois, la pierre et la paille bien sûr. Je suis passé par des formations, des chantiers participatifs pour prendre le contre-coup d'une approche plus académique, même si j'ai pu faire j'ai fait pas mal de chantiers en fait. J'aime beaucoup la relation qu'il peut y avoir avec les entreprises qui font et voir comment les choses se créent, comment elles se, parce que les chantiers c'est très vivant, ça évolue, mais le fait de passer de l'autre côté et de faire par moi-même, de me dire moi je prends maintenant les outils et tout ça et je fais, et ben ça c'est génial, surtout dans l'éco-construction, puisque là il y a tout d'un coup un rapport au naturel et un rapport aux éléments qui est fantastique quoi. On se sent humain C'est assez fou à dire, mais je pense que c'est ce qui attire en partie beaucoup de gens vers ce type de chantier. Mais moi, en tant qu'architecte, c'était me dire, je peux en réinventer mon boulot, et c'est génial d'avoir toute cette perspective.
Quand vous dessinez un lieu d'habitation, comment vous intégrez le besoin du jardin et de l'espace de culture et de travail de la terre?
Alors, il y a une manière de... En fait, moi, je suis un architecte qui a été formé au contexte. C'est-à-dire, est-ce que quand on travaille sur un projet, il y a d'abord le lieu dans lequel on vient s'insérer, on vient s'intégrer. Que ça soit un milieu urbain, naturel, quel qu'il soit, c'est ce qui permet d'avoir des lieux uniques et des réponses uniques et adaptées à un endroit. Et du coup, j'étais très sensibilisé à ça et j'ai toujours pratiqué avec un peu cet état d'esprit. Je dirais que on peut faire ça, mais on peut faire encore mieux, parce que depuis quelques années, avec peut-être une prise de recul et un peu sur mon métier, une certaine manière de pratiquer, où finalement l'espace extérieur, il est un peu secondaire, il est considéré dans un deuxième temps, ou alors c'est un autre projet. C'est pas le même budget, c'est une autre... voilà, il y a deux projets, il y a les maisons et ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que même si on vient s'insérer, comme je disais, dans un contexte, et même quand on arrive à faire cette approche-là, eh bien, il n'y a pas une approche globale unique qui prend les deux projets à la fois. Il y a toujours un temps pour les deux. Et même, je citerai l'exemple d'un habitat participatif pour lequel je travaille en ce moment, dans lequel je suis moi-même habitant. Et en fait, on a cette volonté de travailler l'espace extérieur et d'une manière pour créer une oasis de vue. C'est ça, c'est la philosophie du projet, c'est cette intention-là, qui va de pair avec la construction de bâtiments écologiques. Eh bien, c'est très difficile d'avoir une vue unique qui pense les deux à la fois. Il y a toujours un temps pour l'un, puis un temps pour l'autre. Même quand, finalement, en travaillant de l'extérieur, on réfléchit à comment les bâtiments vont venir s'intégrer, comment ils vont venir se placer. Mais une fois que les bâtiments démarrent en construction, eh bien, on oublie un peu l'extérieur, on oublie ce qui se passe dehors. Et c'est très difficile de prendre ce recul. Et ça, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une logique économique, parce qu'il y a un budget qui a été défini pour telle partie et pas pour l'autre. Il y a une logique de planning, de timing, parce qu'on sait que la construction, ça va vite, et on est tenu par des délais, et même si on veut prendre le temps, eh bien, tout court assez vite. Alors que les espaces extérieurs ont une logique différente. Ils ont la logique qui est celle de la nature, où on plante des arbres une fois ou deux fois par an, et du coup, c'est pas les mêmes, ça fonctionne pas de la même manière.
Mais du coup, comment vous faites, alors vous, architecte, pour penser à la fois l'habitat, la construction et l'extérieur en même temps pour qu'il y ait justement cette harmonie dont vous parliez tout à l'heure?
D'une manière classique, on s'intéresse d'abord au lieu, donc à la parcelle, au terrain, et quand on veut faire les choses bien et qu'on a le temps, et malheureusement on en manque souvent, on fait des observations, on regarde beaucoup de paramètres comme le climat, comment dire, les arbres, les vents, tout ce qu'on regarde en fait en permaculture. C'est là où pour moi ça fait écho en fait, la permaculture. Quand j'ai découvert cette approche, je me suis dit, mais il y a déjà là-dedans des choses que je fais dans mon métier, et je suis pas le seul à le faire, c'est assez courant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, on peut aller encore plus loin, regarder même les traces des animaux, les usages qui sont déjà là, la nature du sol. Et tout ça permet de donner un sens à un projet et de se dire, faut vraiment qu'on respecte ce lieu, en fait. Et en général, la réponse, c'est de se dire, on n'y touche pas, on ne construit pas. ça serait le plus logique. Et c'est là où, des fois, je me dis, est-ce que c'est une très bonne idée de construire du neuf? Mais ça, c'est un autre débat, alors qu'il y a déjà beaucoup d'existants à rénover. Mais quand on se retrouve avec des projets de construction, du coup, avec cette approche, et ben on est souvent voilà, tenu par le temps et bloqué par ça. On se dit, ben maintenant, il faut construire et du coup, on oublie un petit peu ces dimensions-là. Mais dans tous les cas, le déroulé, c'est qu'on commence par une vision globale et on va du plus large au plus précis. C'est-à-dire qu'après, on commence à regarder comment on vient placer les bâtiments par rapport à l'ensoleillement, donc c'est des notions de bioclimatisme, où, aujourd'hui qui sont très, très en vogue, hein, puisqu'on cherche à faire des économies d'énergie, bah, c'est logique d'orienter un bâtiment pour que... il puisse y avoir des apports solaires, donc vers le sud. Après, on peut s'intégrer par rapport à une pente. Il y a la notion de l'écoulement des eaux. Donc, il y a beaucoup de critères qui rejoignent l'extérieur. Mais souvent, on se contente de cela, alors qu'en fait, on pourrait aussi en regarder d'autres, hein, qui sont plus liés à cette approche de la permaculture. Mais malheureusement, on manque souvent de temps pour le faire.
Et j'imagine aussi que vous prenez le temps de rencontrer les futurs, si c'est possible, les futurs habitants, habitantes de ce lieu pour les connaître un peu et peut-être dessiner le projet d'habitat en fonction, bien sûr, de qui ils sont.
Oui, alors... en fait, ça va dépendre aussi du montage de l'opération. Mais idéalement... c'est de construire le lieu en co-création avec les habitants. Et dans le projet que je mentionnais, c'est effectivement ce qu'on est en train de faire. Et on essaie de le faire du mieux que possible, même si ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, l'implication de tout le monde dans le projet, d'une manière ou d'une autre, elle est indispensable pour créer un tel lieu. Après, malheureusement, c'est pas la pratique la plus courante. La pratique la plus courante, c'est qu'il y a un promoteur, un maître d'ouvrage privé qui a d'autres logiques derrière de par rapport à la construction, et, qui sera moins intéressé par quelque chose de plus personnalisé et peut-être qui va préférer quelque chose de plus standard pour que ça convienne à tous et que ça soit plus facile à vendre. Donc, du coup, moi, ce dont je parle, c'est un idéal. Évidemment, en tant qu'architecte, on rêve de faire ça, même si ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, en termes d'aspiration, c'est ce qu'il y a de plus chouette.
Alors comment vous abordez, vous, en tant qu'architecte, cette question-là, celle du lien social ?
La question du lien social, c'est pas un thème nouveau en fait en architecture, c'est assez récurrent. On le voit dès les premières années d'études, comment on crée des lieux. Que je parlais tout à l'heure d'appropriation des lieux, ça peut être aussi comment on fait en sorte que les gens se rencontrent, qu'on crée en fait des moments comme ça d'échange, de partage. Et très souvent, la réponse, elle se fait par l'organisation de l'espace. De manière à ce que, si dans un habitat collectif, par exemple, on fasse en sorte qu'il y ait des espaces où on a envie de s'asseoir, être ensemble, qu'on va croiser son voisin en sortant de chez soi et pas être directement dans la rue. Voilà, ça va être ce travail-là, qui est un travail relativement classique en fait en architecture, qui s'est fait au travers des époques de manière différente. Il y avait les cités-jardins qui étaient pas mal cités. Ça, c'est un des beaux exemples d'architecture où on travaille la transition de l'espace public à l'espace privé, le plus privatif, avec des intermédiaires. C'est-à-dire que à la différence des barres HLM qui nous glace un peu le sang, parce que en fait voilà, on a des barres posées sur des espaces qui sont plats et relativement vides. Les cités jardins, du coup, qui étaient pas mal en vogue dans les années 20, années 30, si je dis pas de bêtises, avaient cette qualité d'avoir des espaces intermédiaires où on passe du plus public au plus privé, et on rentre progressivement chez soi par des lieux où on est avec les voisins, où on va avoir un peu plus de discrétion, jusqu'à arriver à l'espace le plus privé, le foyer, l'intérieur de chez soi.
Est-ce que finalement, quand vous dessinez de telles architectures, est-ce que ce qui est au cœur de ça, c'est finalement, j'allais dire, la paix ?
Pour moi, déjà, la paix, dans ce cadre-là, elle va passer déjà par le fait de partager des choses communes. Et déjà, quand on habite quelque part, le fait de mutualiser des services, de mutualiser des espaces, des lieux, nous pousse à avoir une réflexion pour que, eh bien, en fait, chacun donne un peu du sien pour que ça fonctionne. Alors ça ne marche pas toujours bien, hein. On a toujours ces exemples de copropriété où voilà, il y a toujours monsieur machin ou madame truc qui bloque pour faire telle évolution, tout ça. Mais je dirais que là, on parle plus de lieux justement qui sont à s'approprier, justement. C'est-à-dire que si je souhaite que utiliser un endroit, mais que d'autres personnes vont pouvoir en bénéficier aussi, ben en fait je vais être prêt à faire en sorte d'avoir une espèce de relation avec les autres pour que on puisse tous l'utiliser d'une manière saine. Et c'est là où en fait on n'est pas forcément besoin d'être tous des super copains, des super amis. Déjà, rien que le fait, et comme vous disiez, d'être en paix avec les autres contribue à ce qu'on soit déjà bien, déjà en bon voisinage avec les autres, ce qui est déjà beaucoup.
Donc, ce qui aujourd'hui vous permet de continuer votre travail d'architecte, c'est à la fois la possibilité de construire tout en préservant nos ressources naturelles, mais aussi en préservant nos ressources humaines, parce que vous allez créer les conditions d'une vie sociale épanouissante.
Oui, il y a des solutions et il faut pousser pour avancer dans ce sens-là. Maintenant, c'est un combat permanent. Et tant qu'on est un certain nombre d'acteurs à défendre une qualité du logement, et je pense qu'en général, les architectes sont les premiers à le souhaiter, eh bien, on va toujours essayer d'améliorer les choses et faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous, que les habitants soient heureux, et voilà, même si ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui.
Alors, Nicolas, tu es, avec ton entreprise, donc Seine Architecture, tu es adhérent à l'association BioVallée. Alors, depuis combien de temps ?
Alors, ça fait 2 ans. D'ailleurs, il faut que je pense à mon renouvellement.
Ouais.
En fait, ce qui m'a... BioVallée, j'ai été convié à un rendez-vous avec les acteurs de l'éco-construction il y a 1 an et demi, donc juste avant la crise sanitaire. À un moment donné, c'est quand même assez facile de faire ce genre d'événement. Et j'ai trouvé ça vraiment super qu'il y ait un tel dynamisme, une telle volonté au niveau de la BioVallée. Alors l'idée étant de mettre en relation tous les acteurs de l'éco-construction, que ce soit les maîtres d'œuvre, les entreprises ou toutes les personnes qui gravitent autour. Les fournisseurs, mais aussi, ce qui est intéressant, les gens qui sont plutôt du côté du contrôle, hein, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études. Et du coup qu'on puisse parler entre nous de l'évolution des pratiques pour aller vers l'éco-construction d'une part, et aussi d'essayer de nous fédérer, et je trouvais ça du coup assez logique d'être adhérent à BioVallée pour promouvoir, enfin du moins pour être participer et être en relation avec les autres acteurs, même si c'est en cours voilà, c'est en train d'être mis en place et je pourrais dire une deuxième chose, c'est que un autre mouvement intéressant au sein de la BioVallée, c'est des rencontres entre les architectes qui sont en train d'être initiés en ce moment. Donc moi, quand je suis arrivé dans la vallée, je me suis mis en contact avec certains archis qui faisaient de l'éco-construction et avec qui on s'est dit « Ah, ça serait super de faire des choses, d'organiser des visites, mais pas que entre nous, aussi avec d'autres personnes, des gens intéressés par l'éco-construction, et aussi d'essayer de se fédérer un peu plus pour travailler ensemble, de plus, parce qu'en fait, on est souvent isolé, en fait, et on est, je suis pas le seul architecte à avoir travaillé en agence qui vient s'installer ici, et en fait, il y a un manque cruel pour nous, c'est le fait de travailler avec d'autres. Moi, c'est la première fois que je me retrouve à travailler. Alors pas tout seul, parce que comme je disais, je travaille avec mes clients, avec des partenaires, voilà, mais pas avec d'autres architectes. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de devenir petit à petit, hein, parce que les architectes, on est toujours débordés, on n'a jamais le temps d'organiser quoi que ce soit, tout juste un apéro, voilà. Et là, il y a un truc qui est en train de se passer au sein de la Biovallée, les archis qui se bougent pour essayer de faire des choses, donc on y croit, on espère que ça va pas retomber comme un soufflet, au moins faire en sorte qu'on se connaisse un peu plus les uns les autres et qu'on puisse générer des partenariats. Et rien que ça, ça serait vraiment, vraiment super, vraiment, vraiment très chouette. Donc des partenariats, mais aussi peut-être des échanges de bonnes pratiques, sur des retours d'expérience. Et ça, c'est dans notre métier, c'est indispensable. On peut pas être isolé chacun dans notre coin. Voilà.
Donc se serrer les coudes, encore une fois, pour tout faire, pour vivre de mieux en mieux et vivre avec bonheur sur ce territoire qu'on doit préserver.
Voilà, on peut dire ça.
Bon, écoute, merci Nicolas. Est-ce qu'on pourrait terminer par une des musiques qui inspire l'homme, l'architecte que tu es ?
Alors je pense notamment à un titre qui m'a fait un électrochoc qui s'appelle Gauche, de l'artiste britannique Jamie XX. Le clip vaut vraiment le coup, faut vraiment aller le voir. Ça a été réalisé par Romain Gavras, et c'est assez flippant, hein. C'est tourné dans une ville fantôme, dont je parlais de ville fantôme tout à l'heure. C'est pas pour rien, c'est une ville qui s'appelle Tian Du Cheng. C'est en fait une réplique de Paris fantôme qui va accueillir 100 000 personnes, et il n'y a eu jamais aucun promoteur qui a investi dans cette ville, donc c'est Paris, mais sans les habitants, quoi.
Donc on le redit,
Gauche de Jamie XX.
Merci Nicole.
Portrait d'adhérent Biovallée.
Oh my gosh.